RCF.
Mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes avec les neveux de René, Chemin de pensée. Nous continuons notre exploration des textes de philosophie avec Blaise Pascal. Donc, vous êtes en compagnie de Nazim Fattès, Sylvain Contasso-Vivier, Anne Bonneau et Nicolas Lemoine. Alors, pour resituer les choses, nous avons donc passé trois séances, trois émissions pour parler de Pascal savant. Et nous allons désormais aborder le volet plus métaphysique de l'œuvre de Pascal et voir comment ces œuvres scientifiques et métaphysiques s'articulent. Alors on va donner la parole au maître des résumés, donc Nicolas Lemoine, qui va nous résumer le troisième épisode, donc l'épisode précédent.
Alors, précédent, en fait, pour mieux faire goûter aux auditeurs tout le piquant de la lecture des pensées de Pascal, qui sont éparpillées dans un ordre divers selon les éditions, nous avons quelque peu mélangé l'ordre des fragments de nos propres discussions philosophiques, donc de nos propres émissions, sur ce grand savant et ce grand penseur qu'est Blaise Pascal, en rediffusant ces deux dernières semaines, en fait, les deux premières émissions consacrées à Pascal, hein, qui furent diffusées pour la première fois avant la Noël et entre Noël et Jour de l'An. Et donc, le résumé que je vais faire concerne, en quelque sorte, le fragment numéro 3, qui, lui, a été diffusé la première semaine de janvier 2017. Alors dans cette émission, dans un premier temps, il a été question de la confrontation entre Descartes et Pascal. Nous avions vu la confrontation scientifique sur la question du vide. La lecture d'une lettre de Descartes au père Mersenne nous apprend de Descartes qu'il affirme avoir suggéré à Pascal son expérience du Puy de Dôme. Et puis nous verrons par la suite les controverses métaphysiques. Dans la suite de l'émission, donc, nous avons continué la présentation de la jeunesse de Pascal habile dans les sciences, et avec sa machine à calculer, appelée parfois la Pascaline. Alors, cette machine consiste en un automate permettant un nombre limité d'opérations, à savoir des additions et des soustractions. Donc, ce en quoi elle n'est pas un ordinateur, qui peut, lui, si on lui alloue suffisamment de ressources, effectuer n'importe quelle opération suivant les instructions d'un logiciel préalablement programmé. C'est ce qu'on appelle une machine de Turing, c'est ce qu'on appelle un ordinateur. Et alors cette machine de Turing devient universelle si on peut la reprogrammer à l'envi. Donc nous avons signalé par ailleurs que Pascal a contribué à la naissance du calcul intégral en résolvant le problème dit de la roulette, c'est-à-dire le calcul de la surface située entre une courbe appelée cycloïde et une droite horizontale de hauteur quelconque. Et donc ce calcul est associé à l'utilisation d'éléments infiniment petits. Il a également fondé la théorie des probabilités, appelée par lui « calcul des parties », dans le sens où on a besoin, pour calculer les probabilités, de dénombrer les cas possibles, ce qui fait intervenir donc les combinatoires et donc le fameux triangle de Pascal. Théorie des probabilités qu'il appelait encore « géométrie du hasard ». Et on pense bien sûr à l'usage que Pascal fera de la notion de probabilité pour convaincre un libertin de croire en Dieu. En effet, pour Pascal, toute découverte physique ou métaphysique a une contrepartie métaphysique. Ce recul qu'il est capable de prendre sur cette marche vers l'infini qu'est la science lui permet d'en voir les limites. Ainsi, dans le fragment 227 de l'édition de Brunswick ou 83 de l'édition de La Fuma, il affirme qu'une démarche scientifique aboutie conduit uniquement à se rendre compte de son ignorance et que seuls les demi-habiles, c'est-à-dire ceux qui ont à peine commencé à connaître et qui s'illusionnent sur leur science, croient savoir, alors qu'ils sont pratiquement aussi ignorants que les autres. On retrouve ici quelque chose de très proche de Socrate. Donc Pascal, c'est le philosophe de la mesure, dans le sens où il s'abstient par exemple de montrer l'existence de Dieu, qui sait descendre l'homme, mais tout aussitôt le rattraper. Il parle par exemple d'ignorance savante. Pascal, c'est le philosophe qui remet l'homme à sa place entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est d'ailleurs ce thème que nous allons aborder aujourd'hui.
Merci Nicolas. Donc par rapport à cette question de l'infini, Sylvain, je pense que tu souhaitais faire des précisions par rapport à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire Blaise Pascal est l'inventeur d'une machine mécanique, hein, la Pascaline, oui. Et on avait parlé de comment cette machine, au fur et à mesure des évolutions, débouche sur notre ordinateur moderne, hein, qui fait le quotidien de chacun d'entre nous. Et on avait dit que ce qui fait le cœur de l'ordinateur moderne, c'est cette notion de machine de Turing universelle. Alors Sylvain, est-ce que tu veux nous préciser quel est le rôle qui est joué par l'infini dans cette machine de Turing universelle, puisqu'il s'agit d'une construction mathématique avant tout?
Oui, effectivement. Hein. Donc dans la machine de Turing, en fait, l'idée, c'est qu'on a une sorte de ruban. Enfin, Turing présente ça comme une sorte de ruban avec des cases, hein, qui est compartimentée en différentes cases, et dans lesquelles on va pouvoir mettre des informations. Hein. Donc on va pouvoir lire et écrire des informations dans ce ruban. Et la particularité, c'est que ce ruban est infini, puisque c'est un objet théorique, encore une fois. Donc, on va pouvoir finalement stocker, mémoriser, puisqu'en fait, ce ruban nous sert à mémoriser, au moins temporairement, différentes informations. Et du coup, on a une quantité infinie possible, potentielle, de mémorisation. Alors, comme ça, on va pouvoir faire des déplacements sur ce ruban et donc faire des actions qui vont se suivre. Et ce qui est intéressant, justement, par rapport à la distinction entre la Pascaline et un ordinateur, c'est que la machine de Turing simple, entre guillemets, elle va avoir un ensemble d'opérations qui vont permettre de résoudre un problème donné. On peut définir un ensemble d'opérations qui va, par exemple, effectivement faire une addition. Donc voilà, on a une machine de Turing qui fait une addition. Mais l'intérêt, et c'est là où Turing a été très fort pour le coup, c'est qu'il a dit, ben, pourquoi pas faire une machine qui va simuler une machine de Turing. Et en fait, c'est ça, c'est cette machine-là qui est la machine universelle, la machine de Turing universelle, c'est finalement cette notion de programmabilité où on va pouvoir, en fait, finalement, simuler des machines, n'importe quelle machine de Turing, dans une machine de Turing universelle. Et c'est ça, en fait, qui aboutit à l'ordinateur.
Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que si on voit la Pascaline, on voit qu'il y a un certain nombre de rouages, de roues crantées. Et ce nombre est très faible, il est de 6 ou 7, et donc on sait qu'on en peut avoir. Et en revanche, la machine de Turing étant en droit, c'est-à-dire en construction infinie, hein, elle n'a pas été construite.
Théoriquement, oui.
Et donc, une remarque que Nicolas avait faite lorsqu'on préparait cette émission, c'est que finalement, la machine de Turing étant infinie, on va pouvoir, lorsqu'on utilise un ordinateur, ne pas être borné. Et donc, un ordinateur par essence, ce n'est pas quelque chose de borné. C'est ce que tu avais dit, Nicolas ?
Enfin, à condition de lui donner des ressources infinies. On est borné par sa capacité mémoire et la rapidité avec laquelle il effectue les opérations.
Alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est que tu dis à condition de lui fournir. Et finalement, puisque notre temps travaille tout le temps avec des ordinateurs, ces choses-là, on peut se demander, est-ce que l'ordinateur n'est pas demandeur de ressources infinies? Est-ce que
C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, on voit bien l'évolution. Justement, si on reprend l'évolution des ordinateurs depuis finalement un peu plus d'un demi-siècle maintenant, voire un bon siècle, on va dire, on a eu des machines au début qui faisaient très peu de calculs avec très peu de mémoire. Et puis, on arrive aujourd'hui à des machines qui font plusieurs milliards d'opérations à la seconde avec des milliards d'informations élémentaires stockées. Donc, c'est justement cette course un peu, d'une certaine façon, à l'infini.
Voilà, et je crois que c'est cette course effrénée qui explique le titre de notre émission de Neveu de René. Alors, on va aborder le texte des pensées. Alors, tu as bien souligné le fait que ce soit un désordre et que nous aussi, nous travaillons aussi d'une certaine façon en désordre, Nicolas. Alors, je vous propose de commencer cette question de la mesure, cette question de l'infini. On a vu que l'infini s'incarne de manière tout à fait concrète. Hein, je dis le mot incarné qui a bien sûr des résonances religieuses aussi dans les ordinateurs, mais c'est intéressant de voir comment une idée, quelque chose d'abstrait comme l'infini, trouve une matérialisation dans les objets qui nous entourent. Alors, dans ce fragment qui est numéroté 199 dans l'édition de la FUMA, 72 dans l'édition de Vrinjvic, il y a écrit H. Disproportion de l'homme. Et ce fragment commence par une partie qui a été barrée, dont je vais lire le début. Pascal nous dit, entre parenthèses, hein, voilà où nous mènent les connaissances naturelles. Donc les connaissances naturelles, hein, c'est la philosophie, qui à l'époque de Pascal et jusqu'au XVIIIe siècle est appelée philosophie naturelle. Si celles-là, donc les connaissances naturelles, ne sont véritables, il n'y a point de vérité dans l'homme.
Et si elles le sont, il y trouve un grand sujet d'humiliation, forcé à s'abaisser d'une ou d'autre manière. Autrement dit, on voit là un dialogue serré avec Descartes. Si les sciences naturelles, il y a de la vérité, bon ben très bien, l'homme a gagné. Il a trouvé des vérités sur la marche des choses, la marche des astres, la terre qu'il habite, et ainsi de suite. Mais si vraiment il a trouvé de la vérité, ce n'est pas de l'orgueil qu'il doit y trouver, nous dit Pascal. C'est un sujet d'humilité. Voilà, c'est ça qu'il nous dit. Et puis s'il n'y a pas trouvé de vérité, bah, tant pis pour lui, il est vraiment perdu, quoi. Et donc je vais donner la parole à Anne qui peut-être va nous lire la suite de ce fragment. Alors il y a d'autres parties barrées, hein, puisqu'on rappelle que les pensées c'est quelque chose d'inachevé. Et on va donc commencer par voir comment Pascal essaye de dire à l'homme, regarde donc cette question de ta place dans l'univers.
Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir.
Merci. Alors, est-ce que ça vous suggère des remarques? Alors, ce texte n'est pas facile. Comment on peut le comprendre, l'interpréter?
Déjà, je voulais faire une petite précision par rapport à la lecture de ce texte et par rapport à la lecture d'un autre texte que j'ai lu la dernière fois. C'est qu'il y a beaucoup d'emprunt à Montaigne.
Hein, oui. Alors, Montaigne, oui. Montaigne est quelqu'un qui traverse... c'est un auteur qui traverse les pensées de fond en comble. Enfin, quand aussi, on précisera une chose... Les lecteurs qui prennent les pensées sont souvent intrigués par un certain nombre de choses, notamment le mot pyrrhonien, qu'on retrouve très souvent. Alors, pyrrhonien, c'est celui qui met en doute les choses, et même si Montaigne n'est pas un pyrrhonien total, Montaigne a suffisamment ébranlé Pascal, et il est partout. Alors oui, Anne, tu veux nous lire un fragment précis, c'est ça, par rapport à Montaigne?
Non. Peut-être pas. Enfin, là, par exemple, on peut reprendre... Il y a par la pointe infinie, c'est une reprise pratiquement mot pour mot de Montaigne.
D'accord.
Voilà. Oui, ben là, c'est l'homme qui est perdu dans l'infiniment grand, hein, dans l'univers. Hein.
Oui.
C'est...
Alors, qu'est-ce que ça signifie? Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. Nicolas, comment tu comprends cet article?
Je pense qu'on va y réfléchir le temps de la pause.
La radio des régions, RCF.
Alors, donc pour répondre à la question que tu avais posée avant l'intermède musical, donc l'idée c'est que la science n'est pas achevable. C'est-à-dire que l'univers est tellement vaste, qu'il y a tellement d'échelles différentes dans l'univers, que pour le concevoir tout entier, bien, il faudrait un temps infini, y compris pour l'humanité tout entière. Et même le temps infini ne suffirait pas encore, puisque la pensée de l'homme, même si on ajoute toujours des petites briques qui s'empilent à la manière de Descartes, la pensée de l'homme n'est pas forcément suffisamment vaste pour contenir tout l'univers.
Alors peut-être on peut lire la suite, on peut donner la parole à Anne ou à Sylvain.
Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée.
Donc bon, il y a le mot imagination qui apparaît deux fois, hein, et notamment dans cette dernière phrase. Alors, comment vous comprenez ce mot imagination, hein, qui joue un rôle central aussi dans la pensée de Pascal?
C'est justement, c'est le, la pensée qui marche toute seule, mais sans raison, quelque part, c'est-à-dire qui se laisse divaguer, on n'a plus de repères, justement.
Oui,
les repères que prétendait poser Descartes, finalement, sont impuissants à aller jusqu'à l'infini de l'univers. Et une fois qu'on n'a plus ces repères posés, eh bien, la pensée, elle divague. Et c'est ça l'imagination, c'est la pensée qui divague, qui se laisse aller.
C'est la pensée, oui, effectivement, qui crée des, enfin, qui se fait une représentation sans avoir de support explicite, quoi, montrable, on va dire, d'une certaine façon, ou sur lequel on pourrait justement baser un raisonnement pour le coup.
Alors, je voudrais vous poser une question. Pascal dit que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est. Qu'il se regarde comme égaré et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes, les maisons et soi-même son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Est-ce que c'est pas Pascal, finalement, qui est en train de nous tourner les yeux, le regard vers cet infini et lui-même en train de s'égarer quelque part ? Est-ce que l'homme peut vraiment contempler cet infini ? Est-ce qu'un homme affairé, un homme qui est dans la vie de tous les jours, qui a réglé les affaires de sa maison, de sa famille, de son salaire, peut vraiment considérer cette question de l'infini ? Est-ce que Pascal ne manque pas quelque chose ?
Bah, c'est plutôt les gens trop affairés qui manquent quelque chose. C'est-à-dire que, justement, cet infini, on peut le contempler. Mais en s'affairant à fabriquer les sciences, on peut en aucun cas le concevoir pour Pascal. Et donc on pourrait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir contemplé l'infiniment grand, il va dans la suite du passage contempler l'infiniment petit. C'est-à-dire que si l'homme est un point dans l'univers, c'est à la fois un monde tout entier pour ses constituants élémentaires. Et on peut aller voir toujours plus à des échelles plus petites. Il parle de choses de plus en plus délicates, mais quand ces choses délicates, c'est des choses petites, subtiles, eh bien, on va aussi se perdre dans l'infiniment petit. Et finalement, il fait la synthèse des deux. Et enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? C'est un néant à l'égard de l'infini, mais c'est un tout à l'égard du néant. Un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement caché dans un secret impénétrable. Également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Et donc, c'est justement ces deux infinis hein, que nous annoncions en début d'émission. Et l'idée que l'homme ne peut pas prétendre se placer à n'importe quelle échelle. Quelque part, la prétention de la science, c'est de se dire que on peut se placer à n'importe quelle échelle par la force de la pensée. Et éventuellement réussir à concevoir l'univers dans son ensemble à toute échelle. Donc quelque part, l'homme quitte sa place et prend quelque part la place de Dieu lui-même, qui peut être partout, à n'importe quelle échelle, et qui peut tout englober.
Et est-ce que ça n'a pas été justement un des succès de la science, entre guillemets, notamment de la science du 19e siècle, que de réussir à englober avec une même équation ce qui se passe au fond de l'univers, les astres, tout ça, et ce qui se passe aussi sur Terre avec comment marche la matière. C'est-à-dire, si je construis un avion, quand je construis un avion, j'utilise les mêmes équations de la gravité, de l'écoulement des fluides, que celles qui servent à régir la planète Vénus ou Neptune.
Et effectivement, le 19e a cru pouvoir contredire Pascal, puisqu'effectivement, les interactions fondamentales qui composent les forces de la nature semblaient être valables à toutes les échelles. Effectivement, c'était la même loi, les mêmes lois qui géraient, qui décrivaient, qui déterminaient le mouvement des planètes, que ce qui pouvait se passer sur Terre, justement, pour faire rouler une voiture ou faire voler un avion. Alors ça dit, la science moderne est quand même tombée sur un os, parce qu'en partant vers l'infiniment petit, on s'est rendu compte quand même que y a des lois particulières qui s'appliquaient, c'était la mécanique quantique. Et donc, en quittant notre échelle pour aller vers l'infiniment petit, on a fini par tomber sur un os, parce qu'on a vu que les lois habituelles qui étaient valables à notre échelle ne s'appliquaient plus. Et inversement, pour l'infiniment grand, dans l'univers, on a trouvé des cas où il y avait des phénomènes tellement énergétiques que finalement, la mécanique qui est à notre échelle, qui est valable à notre échelle, n'est plus valable aux grandes échelles. Donc cette idée que les lois qu'on trouve sont valables partout, toujours, mais surtout à n'importe quelle échelle, finalement, on en est revenu.
Alors, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, en fait, c'est vraiment, on voit bien là, justement, la pensée de Pascal, pour le coup, sur cette histoire d'infini, et il considère que l'homme, justement, est fait pour ça. Quand il dit « l'homme n'est fait que pour l'infini », c'est d'une certaine façon pour appréhender cette notion d'infini qui l'englobe, dans lequel, quelque part aussi, il englobe lui-même avec l'infiniment petit. Et ça, pour le coup, c'est en contradiction avec certains autres penseurs qui pensaient qu'on pourrait, justement, avec la connaissance, avec les sciences, même le cartésianisme, pour le coup, englober toutes les connaissances, avoir une connaissance complète du monde. Et lui, au final, il ne pense pas ça, quoi. Il pense qu'on ne peut pas englober l'univers, arriver à connaître tout l'univers d'une certaine façon.
On a changé de Pascal, c'est plus le Pascal jeune justement, ouais. Qui pouvait partager l'enthousiasme d'un Descartes et l'enthousiasme de siècles avant qui avait lieu au 19e siècle, où on pensait qu'en grignotant par petits bouts l'ensemble du savoir, on finirait par tout connaître. Et là, ce Pascal, qui est plus mature, affirme que la science n'est pas achevable et qu'il y a une certaine échelle où situe l'homme et qu'il ne peut pas prétendre, pour reprendre le mot de Merleau-Ponty, à un universel de surplomb, qui serait donc une vue globale sur l'univers, une vue telle que pourrait l'avoir Dieu lui-même, mais qu'il ne peut accéder à l'universel que par le côté, donc à accéder à un universel latéral.
Tu fais bien de le signaler, le rapport à Descartes, Nicolas. Dans ce même fragment, qui est extrêmement long, Pascal nous dira « Ne cherchons donc point d'assurance et de fermeté. Notre raison est toujours déçue par l'inconstance des apparences. Rien ne peut fixer le fini entre les deux infinis qui l'enferme et le fuit. » Donc, « Ne cherchons donc point d'assurance et de fermeté. » Il répond à Descartes. Mais je voudrais donner la parole à Anne, parce que Anne, il y avait un autre fragment que tu avais repéré qui avait attiré ton attention par rapport à cette question d'infini, de la place de l'homme et de la mesure de l'être humain par rapport à lorsqu'il se perd à contempler les deux infinis.
Oui, parce que là, on a parlé de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, mais il parle aussi de l'infini dans le temps. Donc dans ce fragment-là, qui est beaucoup plus court, il parle en revanche de ces deux sortes d'infini. Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité précédente et suivante, memoria hospitis, unius die praeterere untis, le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là. Car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m'y a mis? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi?
Alors Sylvain, tu disais que ça te faisait penser à un autre fragment très célèbre.
Oui,
bien
oui,
sûr.
Tout à fait, qui est d'ailleurs pas très loin dans certaines éditions. Il peut être mis en général, vraiment dans la suite, et où il dit « Combien de royaumes nous ignorent ?» Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ouais. Et donc, c'est effectivement une phrase assez célèbre de Pascal. Mais ce qui est intéressant dans ces textes-là, dans ces passages-là, c'est finalement où il montre un petit peu la fragilité de l'homme dans le monde et la sensibilité. Parce qu'en fait, on voit qu'on est dans un monde, quelque part, qui nous écrase un peu. Et c'est ça qui fait ressortir ici. On est un peu perdu au milieu de tout ça, quoi.
Ça perd de la mesure. Moi, ça me fait penser au professeur Tournesol dans Le Voyage vers la Lune de Tintin. Il y a un moment où la fusée doit faire une manœuvre qui a été à calcul à l'avance, mais qui n'a jamais été testée. Et alors, il y a le professeur qui est Tournesol qui dit « Ah, c'est réussi, je suis soulagé. » Oui, parce que je peux vous le dire maintenant. Si ça n'avait pas marché, alors Capitaine Haddock dit « Oui, nous serions écrasés sur la Lune. » Non, c'est plus grave que ça, mais je peux vous le dire maintenant. Il aurait fallu reprendre mes calculs. Et alors, on a l'image d'un savant qui est tellement extérieur au système qu'il étudie qu'il s'oublie lui-même. Et il se rend même plus compte que s'il s'était écrasé, il n'aurait plus jamais pu reprendre ses calculs. Et c'est ce perte de sens de la mesure que pointe Pascal. Parce que l'homme qui étudie un système, il l'étudie toujours dans un contexte historique. Il est quelque part dans le temps, avec un passé, une culture, et il est quelque part dans l'espace, à une certaine échelle.
Alors, ça peut faire une très très bonne conclusion de cette lecture. Anne, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, c'est qu'il me semble qu'on ne peut pas non plus passer le fait que Pascal disait ça aussi pour tourner l'homme vers Dieu, qu'il humiliait l'homme pour le tourner vers Dieu. C'était aussi une de ses raisons. Je crois qu'on ne peut pas vraiment, même si ce n'était pas le sujet de l'émission,
mais si.
Je pense qu'on ne peut pas peut-être non plus
si, c'est lié. C'est-à-dire on voit que cet infini qui est de nature mathématique, qui est de nature scientifique, etc., ce que cherche à faire Pascal, c'est effectivement tourner le visage de l'homme vers quelque chose qui le dépasse, et bon, qui va appeler Dieu, évidemment, et ce n'est pas le même Dieu que Descartes. Et tu as lu un passage en latin, alors dans les éditions que j'ai, alors c'est évidemment un passage de l'Ancien Testament qui s'agira peut-être d'étudier ou de voir qu'est-ce qu'il signifie. Moi j'avoue que là je ne connais pas la signification, mais alors, évidemment c'est un passage tiré
oui. Le souvenir d'un autre qui passe et qui n'est qu'un jour en un même lieu.
Voilà, bon, alors à méditer. Alors souhaitons que nous ne soyons pas que des hôtes qui passent et que nous allons laisser quelque chose de durable. Du moins, nous continuerons à cheminer avec Pascal lors des prochaines émissions. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, sachez que le mois de février sera sans Neveu de René et que nous reprendrons les émissions à partir du mois de mars, puisqu'il y a des questions techniques à régler par rapport au studio de la radio RCF. Que nous remercions de nous accueillir. Merci à toutes et à tous et à la fois prochaine, en haut début de mars.